affronte Newcastle au Parc des Princes. PSG Newcastle, coup d'envoi à 20h, temps universel. Voilà, tout de suite, c'est Action d'Europe.
Radio G. www.radio-g.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Mercredi 28 janvier 2026, il est 18h10 et des poussières, il suffirait de regarder l'heure pour savoir à peu près. On est ensemble jusqu'à 19h pour vous accompagner, vous le savez, en agitation locale et culturelle. Il y a ma service civique, Sidonie, qui me donne le conducteur, que j'avais oublié juste à l'instant. De toute façon, on était accompagné en chronique, puisque nous serons avec les conseils de mamie dans quelques instants, tout sur la migraine. On aura aussi la Madeleine du Graal pour savoir ce qu'étaient les textos. Et tout à l'heure, en fin d'émission, on avait loupé un petit peu à cause de premier plan la diffusion de Tonton Albert, mais il sera avec nous en fin d'émission. Et on aura des invités. Sidonie, tu t'es même penchée sur le sujet de la soirée. De quoi parle-t-on ce soir ?
Et bah, ce soir, on va parler du Angers Comedy Club et aussi peut-être du festival qui proposera bientôt.
Le festival, d'ailleurs, on va avoir l'occasion avec Benjamin et Nathan d'éclaircir un petit peu, parce qu'on avait l'habitude ici dans Topette de parler du Angers Comedy Club qui a changé. Il y a aussi le festival, il y a le Palace Comedy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Benjamin au micro. Il est venu accompagné de Nathan Amidou. Donc ce soir, on va pouvoir répondre à toutes ces questions et puis en découvrir davantage sur comment ça va et les prochaines actualités de la salle de spectacle et de tous les à côté. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
D'ailleurs, au Palace, il y avait des afters pendant premier plan, donc j'imagine que les soirées, ça a été tard dans la nuit, peut-être un petit peu d'alcool, avec modération certainement, mais peut-être aussi de la migraine le lendemain. Et bah, les conseils de mamie sont là pour tout vous expliquer.
Salut Jones, c'est mamie. Alors mon petit, qu'est-ce qui t'arrive encore? T'as la tête qui explose comme une pastèque qu'on balance du troisième étage? Tu vois les petites étoiles qui dansent la polka devant tes yeux? Ben mon pauvre, t'as chopé une migraine carabinée. Hein. Ça t'apprendra à rester collé devant ton écran 12 heures par jour comme un zombie, à bouffer n'importe quoi et à dormir 4 heures par nuit. Ton cerveau, il se rebelle, et il a raison. Bon allez, arrête de gémir comme un chien battu, mamie va s'occuper de toi. Première chose, tu éteins tout. La télé, l'ordinateur, la lumière, même ton téléphone qui clignote comme un sapin de Noël. Tu te mets dans le noir complet, comme un vampire dans son cercueil. La lumière, c'est l'ennemi numéro un de la migraine. Deuxième truc, tu prends un gant de toilette, tu le trempes dans l'eau bien froide, et tu te le colles au fond. Le froid va engourdir la douleur. Crois-moi sur parole, tu le laisses 15 minutes, tu le remouilles, et tu recommences. Et ensuite, tu bois. Non, pas de l'alcool, crétin, de l'eau. Non mais t'as vraiment le cerveau en pause, toi. La plupart du temps, les migraines, c'est parce que t'es déshydraté comme un chameau dans le désert. Au moins 2 grands verres d'eau d'un coup. Si t'as du café sous la main, eh ben tu t'en fais insérer. La caféine, ça aide à faire partir la douleur. Mais attention, hein, pas 10 tasses non plus, sinon tu vas vibrer comme une machine à laver dérailée. Et surtout, tu te reposes. Tu t'allonges sur ton lit au calme et tu laisses passer l'orage. Pas la peine de jouer les héros. Et si ça dure plus de 24 heures et que t'as d'autres symptômes bizarres, eh ben tu files chez le toubib. C'est peut-être plus sérieux. Allez, salut Jones. C'était Mamie dans la radio.
Les conseils de mamie que vous pouvez déjà retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio, radio-g.fr. Et nous, on accueille maintenant, vous êtes à l'écoute de Topette, nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ah, nous avons des problèmes techniques sonores, mais nos invités sont bien avec nous en studio. Bonsoir, monsieur le président Benjamin Dauge. Ça va?
Oui, bonsoir.
Et il est venu avec Nathan Amidou. Bonsoir, Nathan.
Bonsoir, tout le monde.
Des voix qu'on a déjà entendues ici sur le 101.5 FM, qu'on est très heureux de réentendre ce soir. Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté, je ne sais même pas si le Palace, on avait le droit de l'annoncer. C'était encore dans les cartons. Ça fait combien de temps d'ailleurs maintenant que c'est ouvert tout ça, Benjamin?
Alors on est ouvert en mai 2025, donc ça fait 8 mois, un truc comme ça.
Ouais, bah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas entendu parler de vous, enfin ici dans l'émission, parce que sur Angers, le Palace est arrivé en trompe, comme on dit. Il y a certainement une expression à propos. En tout cas, personne ne peut ignorer ce qu'est le Palace Comedy. Et le Angers Comedy Club n'est pas mort, puisqu'il existe toujours, surtout sur le format du festival dont on va parler ce soir. L'occasion de l'évoquer, bien évidemment. Mais avant tout ça, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on pourrait redonner un petit peu de contexte, Benjamin, sur le Palace? Quel est ce projet, ce nouveau lieu qui a ouvert? Quelles ont été les ambitions? Comment elle se concrétise? Comment elle commence déjà à se concrétiser depuis ses 8 premiers mois d'existence? On peut même rappeler l'adresse, hein, c'est dans les anciens locaux du Palace.
du Cinéma Palace. C'est 16 rue Louis de Romain, juste à côté de la place du Ralliement, à côté de la Grande Poste. Du coup, le projet à la base, c'était donc le Angers Comedy Club. Donc, on était une équipe d'humoristes et de gens à la gestion qui ont décidé de monter leur propre lieu. On s'est entouré de Nathan Villano et Nicolas Audouin qui sont plus dans le cinéma. On les connaît autour de Silence ça tourne et maintenant Minuit 5, et du coup on les a débauchés. Enfin, ils continueront leurs activités, mais pour gérer, eux ils gèrent du coup toute la partie restauration et bar. Et moi je m'occupe toute la partie spectacle, et donc en fait on a monté donc ce comedy club bar restaurant. Donc il y a un espace salle de spectacle, un espace restaurant bar. Juste avant, et donc c'est effectivement dans les anciens locaux du cinéma Palace qui est vraiment assez emblématique à Angers et avec une très belle façade. Et donc on est ouvert du jeudi du mercredi au dimanche. Il y a 2 spectacles par soir. Maintenant on est à beaucoup plus, parce qu'effectivement le samedi on est passé à 3 voire 4 spectacles par soir. Ça prend très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés à venir, et on est complet très souvent. Donc c'est vraiment super chouette. Ça, vraiment les débuts sont assez idéaux. Donc on est idéaux, je sais pas comment on dit, mais en tout cas c'est vraiment très chouette.
Je vais aller chercher un bécherel vite fait ou sur internet. En tout cas pour résumer, en fait le Angers Comedy Club avait besoin d'un lieu, le Palace maintenant est là pour accueillir à proportion, dans les bonnes proportions, toute l'ambition du Angers Comedy Club.
Tout à fait, puis avoir la flexibilité de programmation, on pourra faire ce qu'on veut. En fait l'idée c'est que maintenant beaucoup de gens sur Angers jouent beaucoup plus grâce au Palace, et c'est vraiment précieux. Les humoristes avaient besoin de ça. Nous on était trop à l'étroit au Folie Angevine, et donc il fallait qu'on ait notre propre lieu pour être beaucoup plus libre.
Je ne sais pas dire le nom. Je ne sais pas si c'était tabou ou pas. Mais non, oui, pour l'historique c'est ça. Donc, mais en plus maintenant vous êtes en plein cœur du centre-ville, donc peut-être que ça a renforcé aussi l'attractivité. Le lieu au-delà du symbole que c'est pour les Angevines et les Angevins qui voilà connaissaient presque d'instinct ce qu'était le Palace. Est-ce que la localisation a aussi permis d'amener des nouvelles personnes?
Je pense oui, largement, parce qu'on a beaucoup de gens qui passent devant et qui voient de la lumière et qui disent oh c'est quoi, et qui rentrent et qui posent des questions. Donc et vraiment depuis le début c'est vraiment énorme. À chaque fois qu'on l'après-midi on est là-bas à bosser tranquillement sur nos ordi, on se fait il y a des gens qui viennent tout le temps voir si vraiment il y a qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le concept, etc. Donc vraiment oui, le côté centre-ville est vraiment prépondérant, même si on n'est pas sur une des rues les plus passantes d'Angers, c'est quand même très précieux d'avoir ça. Ouais.
Oui, c'est quand même assez passant. On n'est pas très loin du ralliement. Il y a quand même un peu de passage. Nathan, toi, en tant qu'humoriste stand-upper, du coup, ce lieu, comment tu te l'es approprié? Est-ce que ça a changé un petit peu la manière dont tu faisais des spectacles? C'est vrai que vous étiez locataire d'une certaine façon avant. Ouais. Là, le projet, il est renforcé, même si c'est un lieu qui est dédié spécifiquement. C'est quand même pour le Angers Comedy Club et pour les humoristes liés au Angers Comedy Club à la base.
Au début, ça faisait très bizarre d'avoir ce lieu à Angers. Moi, je croyais que c'était un décor de film et que ça allait disparaître. Mais c'est super, et comme l'a dit Benjamin, en fait...
Peut-être le côté Nathan Villano, ça, du coup, non?
Peut-être ça, qui...
Décor voilà, de film.
Il a apporté sa petite touche. Mais comme l'a dit Benjamin, en fait, nous, humoristes, ça nous permet de jouer 4-5 fois plus qu'avant, je pense. Notamment là tu vois, comme on double voire triple les sessions, donc en fait il y a des samedis on va jouer 3-4 fois, là où avant on jouait peut-être une fois une dizaine de minutes. Donc en fait pour les humoristes c'est super, parce qu'on peut progresser à une vitesse incroyable, ce qui s'est observé depuis l'ouverture du lieu, je trouve. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont pris un niveau assez cool. Et comment s'est approprié le lieu? Bah trop bien, parce que il y a toujours cette ambiance on va dire familiale. On est, même si il y a plein de nouvelles personnes qui sont venues dans cette équipe, tout le monde s'est fait à ça. Donc c'est trop bien. On a l'impression d'être une famille. On a l'impression de pas vraiment travailler, mais on s'amuse. Enfin surtout en tant qu'humoriste, parce que nous, on n'a pas tous les côtés un peu qui met de la pression. Mais en tant qu'humoriste, c'est super, parce qu'on est, on a l'impression d'aller chez des potes. On va faire des blagues. Tout se passe bien. Les gens sont contents. Le lieu est incroyable. Donc c'est super quoi.
Et est-ce que justement d'avoir ce lieu-là, au-delà du côté pratique, de pouvoir disposer plus facilement de faire sa propre programmation, son planning et tout ça, est-ce que c'est venu aussi amplifier les ambitions du Angers Comedy Club? Est-ce que ça permet de changer le regard qu'on a aussi sur soi et ses propositions, ouais. Ses envies?
Oui, carrément. Ça permet aussi de, en tant qu'humoriste, d'être plus ambitieux, de dire on a un vrai lieu où on peut devenir pro. Et se fixer des objectifs un peu plus concrets parce qu'on peut travailler davantage dans ce comedy club et en plus ça permet aussi de se dire est-ce que sur la ville on ferait pas les choses en plus grand comme ce que Benjamin a envie de faire depuis un moment, notamment avec le développement du festival.
Il voit tout en grand.
Depuis le début, ouais, c'est pour ça que ça marche pour l'instant. Mais oui, c'est sûr que ça permet de se fixer des gros objectifs et je pense y arriver parce que le lieu va être la plaque tournante, tout ça, c'est ça qu'on dit, non? Je sais pas si ça se dit, ouais. Mais en tout cas, non,
Marseille,
mais ça permet.
Marseille, ça se dit, je crois.
Oui, je crois que c'est ça. C'est pas pour les bonnes raisons.
Pas pour vrai. Mais je crois que d'avoir un lieu comme ça, ça permet vraiment de développer des personnes, que ce soit sur le côté de la scène, des personnes côté administratif, gestion, et l'ensemble fait que tu peux développer un vrai projet dans la ville, quoi.
Et justement, alors Benjamin, quand le Angers Comedy Club était tributaire d'un lieu qui n'était pas le sien. Commencer déjà à essayer de faire d'autres propositions, tenter, expérimenter. On a eu des grosses têtes d'affiches qui sont venues. On portait aussi les autres humoristes qui sont en dehors du territoire. Est-ce que le fait d'avoir créé le Palace Comédie, maintenant, il y a d'autres projets aussi de ce type-là. On a une programmation qui est hors Angers Comedy Club, j'imagine.
Hors Angers Comedy Club, tu veux dire, en Angers Comedy Festival, on s'est tourné. En fait, l'idée de tout ça, c'est que l'idée globale de ce projet et de tout le projet depuis qu'on est né, c'est de développer le stand-up. C'est-à-dire que développer ne serait-ce que les humoristes, mais aussi le public, c'est-à-dire essayer de faire comprendre au public ce que c'est le stand-up, comment ça fonctionne, quels sont les codes. Et donc, pour ça, il faut leur en faire découvrir.
Il y a des médiations, tu veux dire, des ateliers un peu?
On est en train de travailler là-dessus, justement, avec, c'est aussi l'idée. À la base, on a monté le Palace Comédie et on s'est dit, est-ce qu'on laisse tomber l'Angers Comedy Club en tant qu'asso? Et en fait, on s'est dit, mais non, c'est dommage, il faut qu'on continue ce projet-là avec, effectivement, développer tout l'aspect formation, l'aspect recrutement, et essayer de développer tout ça de manière un peu plus intéressante, parce que là en fait le truc c'est de programmer et faire découvrir aux gens plus de choses. Donc on s'est aussi lancé dans de la production d'humoristes un peu plus reconnu avec la maison de quartier de Haut-Saint-Aubin. On travaille une fois par mois, on a une date chez eux, on a des humoristes un peu plus réputés. Et là, la nouvelle étape, c'est le Angers Comedy Festival, donc du 12 au 15 février. On construit un festival avec, on a deux dates au Grand Théâtre, une double date au Centre des Congrès, on a des dates aussi au Palace Comedy et au Cinéma Pâté. Et donc c'est avoir un point, en fait, un temps vraiment fort sur l'année, dédié à l'humour, et que la ville pense à ça. C'est la deuxième édition, on va dire, mais c'est vraiment la première édition de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. J'ai eu beaucoup d'expériences moi-même non, mais en tout cas j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont fait partie de Premier Plan, qui ont fait partie du Festival d'Anjou, et en fait je commence à comprendre comment ça se développe. Et en fait c'est très intéressant de voir à quel point c'est très intéressant de développer un gros festival pour que la ville aussi comprenne comment ça fonctionne et qu'il y ait un temps fort à l'année de ok, on voit des affiches partout, on voit tout partout, et à ce moment-là partout c'est de l'humour, et c'est très intéressant, quoi.
Je me pose la question là maintenant, et donc je te la pose, Benjamin, mais c'est ton parcours d'études, ça, ou t'as appris justement c'est simplement ton rêve et puis la concrétisation de ce rêve qui t'a emmené vers le développement de toutes ces compétences?
Pas du tout. Alors c'est-à-dire que j'ai fait une licence de psycho, donc vraiment j'ai une licence de psycho à mon actif. Et après, en fait, Nathan s'est lancé dans le stand-up. Enfin, on a eu une petite histoire un peu partagée au niveau du lancement dans le stand-up, où il s'est lancé et moi à la base j'étais aussi sur scène au début.
Ah, t'étais sur scène?
C'est voilà.
On n'a pas d'archives de scène, Nathan?
Si, mais si. Je garde ça pour moi.
Ouais, ça reste dans les téléphones.
Voilà, exactement.
Clairement, c'est mieux pour tout le monde. Et à la base, en fait, il y a eu ça, puis le projet était très intéressant, et en fait de fur et à mesure j'ai eu envie je me suis mis là-dedans, ça a eu la passion. J'étais quand même déjà très intéressé par l'humour à la base, mais en fait il y a eu cette possibilité, cette opportunité de se lancer à Angers, de développer des choses, de construire des choses rapidement, et donc voilà, c'était comme ça que cette envie s'est construite.
Voilà, comme quoi on a tous des talents. Alors toi c'était pas le talent que tu pensais avoir, mais tant mieux pour nous, hein, finalement, pour le public angevin. On a tous des talents cachés, et puis des fois on en a bien plus que le simple parcours qu'on peut être en train de mener. On fait une pause musicale sur le 101.5 FM et on revient avec vous juste après.
À couper. Comment ça va? temps fait ce qu'il fallait. Fallait encore que je te parle. Comment ça va, comment ça va? C'est longtemps fait du mal. Je t'ai laissé sans médaille. Fallait encore que je te parle. Maintenant ça va, maintenant ça va. Oh. Ça va, ça va. Oh. Tu sens l'effet, tu sens l'effet. Oh.
De Théodore sur le 101.5 FM.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Et ce soir, on est au Palace, on parle du Angers Comédie Festival. Enfin, on en parle dans vraiment quelques secondes, mais juste avant ça, Sidonie, bonsoir, on t'a pas encore entendu.
Oui, c'est vrai, bonsoir.
Je serais curieux de savoir quelle approche tu as par rapport au stand-up, à l'humour en général. Est-ce que c'est une discipline, un art du spectacle que toi, tu consommes, est-ce que tu vas en tant que public voir ce genre de spectacle?
Bah oui, quand j'en ai l'occasion, c'est vrai que je peux aller voir du stand-up, surtout quand ça vient dans mon petit village paumé, des fois il y a des choses qui viennent dans des bars ou des choses comme ça.
Des choses.
Oui, des choses. Pardon, des shows qui viennent et tout. Du coup, c'est assez sympa et même j'ai pu venir au Palace il y a pas si longtemps pour aller voir du stand-up et d'autres choses proposées. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui redonne un peu du peps quand on n'a pas le mood ou des choses comme ça, ça fait toujours du bien.
Toi, tu connais des artistes stand-uppers comme ça qui te hype ou pas, peut-être sur TikTok? On sait que TikTok aussi, hein, y a la scène et puis il y a les à côté, les réseaux, mais je sais pas si t'es aussi fan que ça du stand-up à ce moment-là.
Je sais pas, j'ai pas de nom comme ça, mais je dirais peut-être Nathan Amidou, un truc comme ça.
Ah, bah, ça tombe bien, mais il est là. Oui, puisqu'on est avec Nathan et Benjamin, c'est fou. Non mais plus sérieusement d'ailleurs, j'en profite, je rebondis sur la passe que je viens de me faire à moi-même. Nathan, TikTok, il y a la scène, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Être stand-upper aujourd'hui, c'est beaucoup plus que, entre guillemets, juste monter sur scène. L'écosystème un petit peu du spectacle a changé ces derniers temps.
Exactement, si tu veux remplir ta salle de spectacle, les réseaux aident énormément aujourd'hui. Parce que les gens, ils voient passer, enfin beaucoup de gens consomment les réseaux, donc s'ils voient passer une vidéo qui les touche, eh ben ils vont peut-être prendre une place de spectacle. Donc aujourd'hui, il y a l'aspect, faut que j'écrive des blagues, faut que je sois marrant sur scène, mais aussi faut que j'écrive des blagues qui vont être marrantes en vidéo, qui vont toucher les gens sur des temps très courts parce que les réseaux, on consomme ça de façon très 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 rapide. Donc oui, c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses qui font partie du métier aujourd'hui. Ouais.
Est-ce que les réseaux, d'une certaine façon, les réseaux de chaque stand-upper, stand-upeuse a pu aussi contribuer à porter un peu le Palace Comedy Club? Je pose un peu la question à Benjamin, mais je vois qu'il est en galère avec son casque. Tu nous entends, Benjamin? C'est bon.
Depuis tout à l'heure, ça faisait des allers-retours.
Ah oui, c'est des faux contacts. D'ailleurs, on lance un appel aux dons. Voilà, si vous voulez soutenir Radio G pour qu'on change les connexions des casques. Du coup, j'ai perdu le fil de ma question, mais si par rapport au succès du Palace et du Angers Comedy Club, enfin le Angers Comedy Club qui a amené au Palace Comedy. Les réseaux ont un petit peu contribué aussi, vous pensez?
Je pense que les réseaux de chaque humoriste ont aidé à faire venir des gens. Ensuite, ça, il y a aussi les réseaux du Palace qui aident aussi, quoi. Mais
les réseaux sociaux, tu veux dire? Oui. Ouais. Nous, il y a eu le fait qu'on fasse de la promotion quasiment uniquement sur les réseaux, c'est-à-dire que il y a 6 ans à l'époque. À l'époque où on a lancé ça, il y a pas beaucoup de gens qui faisaient de la publicité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook.
Ah, tu parles de la vraie de la publicité, ciblée.
En fait, ouais, c'est ça, la publicité ciblée, on cible sur Angers et on peut envoyer à tous les gens, voilà, ils ont ça sur leur téléphone et du coup ça marchait très très bien à l'époque, ça marche aussi bien maintenant mais un peu moins. Et en fait, c'est effectivement sur les réseaux, on a beaucoup fonctionné avec ça. Après maintenant les réseaux sociaux, je suis pas sûr que nous ça nous en tant que comedy club, je sais pas si ça donne envie aux gens de venir, même si on met des photos, on met des choses, etc. C'est un peu la consommation qui se fait maintenant. Il y a d'autres choses. En fait, nous, c'est plus le bouche à oreille qui fonctionne vraiment énormément. C'est-à-dire que les gens viennent et puis ils disent, ah, je suis allé, c'est super, machin. Ouais.
Et puis si demain t'as un ou une humoriste qui a une grosse communauté sur les réseaux, dit, je joue au Palace Comedy, là, les gens vont venir et ça convertit beaucoup, quoi.
Oh, ça, c'est sûr, oui.
Ouais. Est-ce qu'on peut citer, par exemple, la personne qu'on citait pendant la pause musicale? Ou pas? Est-ce que ça contribue aussi à faire venir un petit peu les gens?
J'ai oublié, qu'est-ce qu'on cite?
Vérino, c'est ça?
Ah, oui, Vérino, oui.
J'ai eu peur de, je voulais pas prononcer son nom, je sais pas ce qu'on peut
on
dire aussi.
On ne peut pas le dire.
Parce que Benjamin, faut savoir que l'Angers Comedy Club, pour la petite histoire, a tellement tout le temps grandi, qu'on a à peine parlé partenariat au tout début, à l'époque aussi, hein, que il me disait, oui, alors on va parler de ça, mais si on peut pas trop, parce qu'il y a Paul Mirabel. Non, il y a pas, faut pas dire, c'est Paul Mirabel. Donc je sais plus si on peut dire ou pas les choses.
Mais c'est ça, non, c'était surtout centré autour de Paul Mirabel, parce qu'il voulait faire attention de...
Mais même pour le Palace, hein, il y avait...
Et oui, pour le Palace, bah, c'était la,
les infos dans le couloir, mais il fallait pas qu'on en parle après.
Mais effectivement, bah, c'était comment préserver l'effet d'apparition. Oui, non, Vérino s'est installé à Angers, donc il habite à Angers maintenant, et en fait, du coup, il est beaucoup venu bosser son spectacle chez nous. Maintenant, il est parti en tournée, donc là, il est plus trop à Angers, mais le prochain spectacle, il sera là, et puis il viendra roder. Donc oui, il venait régulièrement, là, en septembre, par exemple, il était tous les jeudis et vendredis. Mais c'est sûr que c'est très intéressant d'avoir Vérino, ne serait-ce que pour son expérience et sa connaissance du milieu, c'est très très intéressant.
Oui, et puis c'est gratifiant, ça veut dire que le projet, même si vous n'en doutiez de moins en moins, est béton, quoi, il est très crédible.
Ouais, c'est oui. Ça. Quand ça plaît à des humoristes très expérimentés, tu te dis, bon, peut-être que les choses ont été faites dans le bon sens.
Oui, Paul Mirabel, Kian Kojandi, pour les grosses têtes d'affiche, par exemple, c'est qui ça. Étaient venues dans le cadre du projet du Angers Comedy Club. On parle du festival vraiment dans quelques minutes, mais avant, Sidonie, tu nous disais que tu avais été dans le lieu du Palace, toi, quelles impressions ça t'a donné? Les marches, les couleurs, l'ambiance, c'est très feutré, très cocooning. Est-ce que, enfin, voilà, tes impressions par rapport à ce lieu?
Bah déjà la première fois que je suis venue, j'ai trouvé le lieu magnifique quand on rentre, mais je savais même pas où on rentrait, j'avais pas l'impression que c'était vraiment un palace pour le coup. Et la salle aussi, elle est tellement, c'est une ambiance un peu confortable, familiale, où tout le monde se rapproche, tout le monde peut parler assez aisément, et la scène est vraiment proche du public, du coup on a vraiment l'impression d'avoir une entente avec l'artiste en face de nous, du coup vraiment l'ambiance est incroyable et le lieu aide beaucoup, je pense aussi.
T'as eu l'occasion de manger ou pas toi, Sidonie, là-bas?
J'ai pu manger, j'ai fait un petit cocktail après un spectacle et c'est très bon aussi, il faut le dire. On a tout dévoré avec ma collègue Cassandra.
C'était l'effet que vous recherchiez un petit peu, Benjamin?
Bah oui, on a beaucoup bossé avec un maître d'œuvre qui est Cox Architecture. On a beaucoup travaillé avec eux sur comment faire en sorte que ce soit, en fait, vu qu'on est déjà l'Adventure Palace, fallait pas que ce soit un endroit qui se fasse trop guindé, trop riche. Donc en fait, il y a un peu un truc où c'est très joli, mais aussi il y a du béton, il y a des trucs un peu, les chaises d'écolier, donc fallait que ça contrebalance un peu. Puis dans la salle de spectacle, ouais, il y a le côté feutré, côté rideau, côté moquette pour être vraiment, vraiment feutré. Et pour toute la partie nourriture, etc. Ouais, c'est parti du principe déjà d'être mangeable dans la salle de spectacle, donc faut que ce soit des trucs qui sont prédécoupés, qui sont de la finger food, quoi, qu'on appelle.
Ah ouais, la moquette, ça doit être sympa à nettoyer.
Hein. Ça va, c'est de la moquette de restauration, donc on arrive quand même à s'en sortir.
Je savais pas que ça existait.
C'est ça, mais c'est fait exprès, donc c'est facilement lavable avec une shampoingeuse, il y a pas de problème. Mais
on est très technique, hein, quand même.
C'est vrai que c'est très précis. Mais non, on a été agréablement surpris de la qualité de. En fait, c'est que Nathan Villano a construit la carte du palace et elle est vraiment très très bonne. On a Éloi en cuisine aussi qui gère de ouf. Enfin, vraiment, et Laurine même. Enfin, c'est une équipe vraiment géniale. Là, on va sortir bientôt le brunch. Et ça va être vraiment, déjà nous on a eu des avant-premières, c'est exceptionnel. Enfin, à chaque fois, en fait, moi je suis très content parce que je m'occupe de la partie spectacle et donc à chaque fois je découvre, je participe au truc et je goûte les choses et c'est un bonheur. Donc vraiment, je suis à la fois client et à la fois
une adresse où manger aussi. Du coup, on l'a bien compris. On parle du Angers Comedy Festival peut-être maintenant. Alors deuxième première édition, nouveau format. Comment on aborde les choses? T'as vaguement, enfin tu l'as même assez bien détaillé, les ambitions, les lieux. Qu'est-ce qu'on va faire, ce sont exclusivement par exemple Nathan et tous ses copains copines du Angers Comedy Club qui seront sur scène? Comment ça marche? Il y aura des formats différents? Comment Nathan, toi tu vas te l'approprier aussi ce temps? Expliquez-nous tout s'il vous plaît.
Du coup, bah, il y a plusieurs soirées. On commence le premier soir, on est au Grand Théâtre, donc c'est jeudi 12 février au Grand Théâtre à 20h. Il y a sur scène, il y aura donc les quatre humoristes du Angers Comedy Club et on a mis quatre filles sur scène aussi qui sont Lola Dubini, Nash, Camille Lorente et Sophia Bellabès. Donc c'est le premier soir, ça, au Grand Théâtre. Il reste 50 places sur les 700, donc c'est vraiment très très bien parti. Le deuxième soir, on est aussi au Grand Théâtre. On a délégué la programmation à alors c'est Mortimer Stand-up que ça s'appelle. C'est la boîte de production de Panayotis Pasco et Thomas Wiesel notamment. Et plusieurs gens qui sont dedans, mais c'est vraiment autour de ça. Donc c'est Panayotis qui a composé le line-up. Et donc il y aura Alex Vizorek, qui est un comédien, un humoriste belge. Il y a du coup Douli, il y a Warren Hichen et Louis Chappet. Donc voilà, on est très très contents. Je pense que ça va être un très très beau, une très belle soirée. Et donc ça, c'est là, il reste 130 places pareil sur le Grand Théâtre. Donc c'est très très bien parti aussi. Donc ça, c'est le vendredi 13. Le samedi 14, on est au Palace sur toute la journée. Et le soir, on sera au Grand Théâtre. Donc au Palace, il y a donc c'est déjà complet, mais à 13h il y a tous les humoristes en jouant, en gros, qui jouent 3 minutes chacun. Donc on est avec tous les gens des open mic, et va vraiment tous les gens de tous les humoristes de danger. On a ensuite à 15h30 le Bagarre Comédie, qui a une énergie, je sais pas si vous les avez déjà reçus, c'est Anne-Claire et Capucine Brebion qui jouent ils font une fois par mois au Jokers, et en fait c'est une énergie très très sympa, féministe, et c'est vraiment très très intéressant. Donc du coup, ils viennent faire un plateau avec notamment Lou Trotignon qui sera sur scène. Qui est voilà, on a à 17h on a un 3x20, mais ça c'est complet aussi. Louis Chappet, Tristan Pierre et c'est Tristan Pierre et Victor Vaucher. Ensuite, on a le spectacle de Tristan Pierre qui est du coup un humoriste qui est en train de pas mal exploser sur Paris. Tristan Pierre qui du coup est déjà complet aussi. et après la soirée qui va être plutôt chouette, c'est effectivement le samedi 14 février, donc pour la Saint-Valentin si jamais certains veulent, au cinéma Pâté. On a du coup ce qu'on appelle le Zwang Comedy Games. Donc les Zwang, c'est trois humoristes angevins, donc c'est Jules Oz, Emilien Augereau et Matt Moran, qui en fait ont créé un collectif et qui font des soirées un peu absurdes, un peu voilà. Et là, l'idée, c'est que c'est vraiment un jeu comme un burger quiz. Donc ils invitent deux humoristes qui sont Victor Vaucher et Chloé Fromentin, et ils vont jouer donc au cinéma Pâté avec l'écran géant. Ils vont faire pas mal de conneries, ça va être très très marrant. Donc ça va être plutôt chouette. On travaille avec Laurent Merlin pour créer tout un décor qui va être vraiment très chouette.
Sur la moquette un petit peu là, j'ai l'impression.
donc c'est chouette. Et le dimanche, c'est la double grosse soirée. On joue à 16h et 20h au centre des congrès, donc 1200 places deux fois, et donc il y a 33 humoristes qui viennent jouer 3 minutes chacun. Donc là, on a un line-up très intéressant. On a Blandine Lehoux, on a Édouard Deloignon, on a beaucoup de gens, Léandre, voilà, on a vraiment énormément d'humoristes. Toute la programmation est disponible sur le site internet. Et pour le coup, on est très très content. Et là, il y a déjà 1400 places qui sont parties, donc il en reste plus beaucoup. Ça va aller très vite.
3, voilà.
Pas surtout. Non, mais c'est ça. C'est que d'ailleurs, là, il reste 2-3 semaines. Et là, on est en train de rajouter un autre spectacle. J'ai eu la chance, du coup, avec Alex Vizorek, de caler son spectacle au Palace. Donc c'est vraiment très très bien pour un humoriste.
Là, le jour d'info qui lance ouais. Comme ça, tout simplement.
Oui, c'est ça. Bon, je vais sortir la billetterie bientôt là. Normalement, j'ai reçu les visuels, donc je vais pouvoir la créer. Donc c'est très chouette. On a Alex Vizorek qui va vraiment. C'est assez gros quand même. C'est un humoriste qui est très réputé.
Mais la salle est toute petite. Elle va être remplie en. Là, ça y est, tu viens de le dire. Le temps qu'on parle, il y a plus de place.
Bah, je pense. Ouais.
3 minutes. Ouais.
C'est ça. Quand je vais ouvrir la billetterie, ça va être très 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 bien. Non, mais je suis très content. C'est vraiment. En fait, vu qu'il joue, ce sera le vendredi 13, et vu qu'il joue au Grand Théâtre, je le fais jouer son spectacle juste avant au Palace. C'est l'avantage d'avoir ce truc-là, vu qu'il vient déjà, on peut le booker sur une plus petite salle. Donc voilà, on est très contents. Là, je suis vraiment très content de ça.
Bah oui, on le comprend bien. Ouais. Nathan, sur cette programmation, alors il n'a pas cité ton nom, je crois, dans les 3-4 minutes peut-être ou...
Je joue moi sur la première soirée au Grand Théâtre avec les copains du Angers Comedy Club et d'autres humoristes parisiennes. Et ensuite, le dimanche aussi au Centre des Congrès, où là, je fais un passage, et aussi, avec les copains, on anime la soirée, donc on présente et on fait un petit truc spécial à la fin. Mais ce qui est fou dans ce genre de festival, c'est qu'en fait, on va jouer dans des lieux incroyables. Enfin, jouer au Grand Théâtre, c'était un rêve il y a 3-4 ans. Et là, quand Benjamin nous a dit, on va le faire, c'est fou. Donc il y a cet aspect-là qui est incroyable, de jouer dans des très belle salle à Angers. On va rencontrer plein d'humoristes. On est dans une énergie pendant 3-4 jours où on rencontre plein d'humoristes. Peut-être qu'on connaît déjà, qu'on a déjà croisé. Peut-être que d'autres qu'on connaît pas du tout. Donc ça, c'est super cool. Et aussi, ça permet de montrer ce qui se fait à Angers, parce qu'il y a des humoristes de Paris qui vont venir, qui vont nous découvrir, et puis qui vont dire, en fait, à Angers, il commence à y avoir quelque chose. C'est super. Et donc ça permet d'être dans une énergie qui est super saine, qui est super cool, et de découvrir des lieux vraiment.
Ouais. Et puis tu parles des lieux, des salles. Quand Sidonie nous faisait la visite guidée, audio guidée du Palace, on voit une ambiance, enfin une salle qui est assez confidentielle quand même, hein. C'est un grand salon, ouais. On va dire. Le Grand Théâtre, c'est un extrêmement grand salon pour le coup. C'est des scènes aussi sur lesquelles toi par exemple t'es moins habitué à jouer.
Ouais, ça m'arrive quand je fais des premières parties, mais c'est pas tous les jours, donc c'est une expérience qui est trop cool, quoi. De pouvoir tenter de faire des blagues dans ce genre de salle, au moins c'est l'objectif. Dans quelques années, de jouer son spectacle dans ce genre de salle, donc être sur les planches déjà ce moment-là de ma carrière, on va dire, c'est trop bien. C'est un rêve qui se réalise grâce à Benjamin.
On peut le dire comme ça. Tu parles de ta carrière, Nathan. Justement, on va prendre quelques minutes juste après la Madeleine du Graal pour parler de toi, des prochaines actus aussi, de ton parcours jusque-là, de comment tu as un peu évolué grâce à Benjamin ou les autres opportunités aussi. Mais avant tout ça, on s'intéresse aux textos.
Plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal. C'est la Madeleine du Graal.
C'est la Madeleine du Graal.
Daron Daronne, bienvenue dans la Madeleine du Graal. C'est votre chroniqueur préféré à l'antenne pour notre rendez-vous Nostalgie 90s. Aujourd'hui, on plonge dans un objet qui a révolutionné notre vie sociale et qui a fait trembler nos parents quand ils recevaient la facture. Le texto, ou SMS pour les puristes. Ce petit son, mes amis, c'est l'équivalent sonore de la liberté. Le signal que notre message s'envolait vers notre crush, notre meilleur ami, ou pour prévenir nos parents qu'on rentrerait un peu tard. Apparus dans les années 90, les SMS ont vraiment explosé au tournant des années 2000. À l'époque, on payait chaque message, jusqu'à 1 franc, puis 15 centimes d'euros. Une fortune pour nos maigres économies d'ado. Souvenez-vous de cette prouesse technique, taper un message sur un clavier à 12 touches où chaque touche contenait 3 ou 4 lettres. Il fallait appuyer plusieurs fois sur la touche pour atteindre la bonne lettre. Pour écrire « ciao », c'était 3 pressions sur le 2, 3 pressions sur le 4, 1 sur le 2, 3 sur le 6, et enfin, un véritable sport olympique pour les pouces. Et la joie quand les premiers téléphones à écriture prédictive sont arrivés. Le fameux T9, une révolution qui produisait parfois des messages totalement incompréhensibles. Nous avons aussi inventé tout un langage pour économiser les caractères et les centimes. Salut, CV, RDV, 2M1, A8H. Devenait compréhensible pour toute une génération, mais restait un mystère total pour nos parents. Les 160 caractères maximum par message nous ont appris la concision bien avant Twitter. C'était un art de tout dire en si peu d'espace. Et quand on dépassait, quelle tragédie! Le message était coupé, ou pire, facturé double. Et les disputes par SMS, ces longs échanges où l'on attendait avec angoisse la réponse, guettant le téléphone comme si notre vie en dépendait. Oh, il a mis 10 minutes à répondre. Il ne m'aime plus! Sans parler des premiers émojis, ces combinaisons de caractères qui formaient des visages. Un sourire, une tristesse, et puis le mythique clin d'œil qui pouvait soit sauver une relation, soit vous mettre dans un embarras total, selon le contexte. Aujourd'hui, avec nos messageries instantanées gratuites, nos smartphones tactiles et nos émojis colorés, on a du mal à imaginer ce monde où chaque caractère comptait, où l'on abrégeait tout, où l'on planifiait ses messages pour ne pas ruiner son forfait. Mais, avouez-le, il y avait quelque chose de magique dans cette époque. Une certaine authenticité, une valeur à la communication. Quand on recevait un SMS, c'était que la personne avait vraiment fait l'effort d'écrire, de payer et d'attendre. Alors, la prochaine fois que vous enverrez un message avec vos pouces qui glissent sur un écran tactile, pensez à l'époque où ces mêmes pouces dansaient sur les Nokia 3310, où l'on comptait les caractères et où on priait pour que le message arrive malgré un seul bâton de réseau. C'était la Madeleine du Graal, un podcast produit par les studios 5 Sens et en partie réalisé à l'aide d'IA. À bientôt pour un nouveau voyage dans vos souvenirs.
Plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal. C'est la Madeleine du Graal.
C'est la Madeleine du Graal.
La Madeleine du Graal, comme d'habitude, dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio.
Topette avec Pierre Benoît.
Tu connaissais, toi, les textos, Sidonie ?
Oui, j'ai quand même une culture qui fait que je connaissais les textos, merci.
Les SMS, mais c'est juste le SMS hein, finalement, mais le texto à l'ancienne où il fallait appuyer sur la même touche plusieurs fois pour avoir une lettre, ça, voilà. Benjamin aussi t'as connu, j'ai l'impression.
Ouais, c'était, bah, au début, nous on avait ici, il y avait les Blackberry, mais le Blackberry, oui. T'avais toutes les touches.
Tout ce qui venait juste.
Mais non, on n'a pas connu. Bah, moi j'ai connu le téléphone de ma sœur qui était un téléphone à clapet, c'était exceptionnel.
Ah oui.
On a vécu des choses.
Une écriture bien différente aussi. Ouais. Mais bon, ça c'est un autre débat. Benjamin, tu nous redonnes les infos pratiques tout à l'heure sur le Angers Comedy Festival. Première édition, on va dire ? Première grande édition ?
Bah, non, on dit que c'est la deuxième édition.
La deuxième.
Parce qu'en fait, la première était quand même déjà chouette. On a fait la salle Chabrol, on a fait des dates aux Folies. Il y avait eu Verino, il y avait eu Alexis Rossignol, il y avait eu pas mal de gens cool. Donc oui, non, c'est quand même la deuxième édition, parce qu'on peut pas renier qu'elle a déjà existé, mais oui, voilà, deuxième édition.
Les infos pratiques, et surtout, faut se dépêcher si vous êtes en train de nous écouter, là, juste, garez-vous si vous êtes en voiture, bien sûr, mais réservez vos places absolument très rapidement, parce que ça part très vite. Voilà, il y a plein de dates qui sont déjà complètes, mais Nathan, puisque t'es avec nous, l'occasion de se pencher sur ta carrière, comme tu l'évoquais, alors tout pour toi a commencé à peu près en même temps que Benjamin avec le Angers Comedy Club, finalement, t'es
oui.
Intimement lié à ce projet qui t'a porté sur scène, littéralement. Et puis à côté, hein, bien sûr, parce qu'il faut filer un coup de main, des fois, peut-être en régie ou je ne sais où, sur les différents événements. Aujourd'hui, t'en es où sur, est-ce qu'on peut dire que tes abonnés Insta, c'est une bonne mesure, par exemple? Je ne sais pas si c'est le cas.
Je ne sais pas du tout comment on peut mesurer ça, mais moi, je suis heureux avec ce que j'ai pour l'instant. Enfin, cette année, je me suis mis à faire des vidéos sur les réseaux. Avant, j'en faisais pas du tout. Ça a plutôt pris, je trouve. Donc là-dessus, oui, je suis content. Et c'est surtout que cette année, j'ai lancé mon spectacle en début d'année, enfin cette année, l'année dernière maintenant, en début d'année 2025, j'ai lancé mon spectacle que j'ai joué 5-6 fois à Angers avant l'été. Et ensuite, j'ai eu une résidence à la Compagnie du Café Théâtre à Nantes. Donc j'ai joué pendant un mois tous les jeudis, vendredis, samedi. Donc ça m'a permis de bien travailler le spectacle, bien le développer et le jouer devant des gens qui ne me connaissaient pas. Donc ça permet de voir si on est vraiment marrant donc ça m'a fait bosser sur plein de points hyper précis, donc ça c'était super cool. Et là j'ai rejoué mon spectacle au Palace Comédie là au mois de janvier, et Benjamin m'a proposé à la rentrée là en septembre de caler mon spectacle à la Maison de Quartier de Haute-Saint-Aubin, une salle de 240 places à Angers. Au début je lui ai dit non, parce que je me suis dit les gens ne viendront jamais. Et il m'a dit si, j'ai dit bah allez.
Oui, c'est comme ça, son management. Ouais.
Bah, entre nous, oui.
Entre nous, c'est comme ça.
Ils se connaissent bien, on précise.
Et donc on a calé la date, et en fait là, il y a déjà plus de la moitié des places qui ont été prises. C'est fou, je m'en rends pas compte, enfin c'est incroyable. Et donc ça se passe le 25 mars 2026, et j'ai hâte, parce que ça va être ma première grosse salle, on va dire.
Seul, donc, en tout cas, oui,
seul,
que pour
ça,
toi.
Que ouais. Pour moi, les gens vont venir que pour moi. Donc ça commence à prendre un peu d'ampleur, en tout cas à Angers. Et puis après, le reste, comme on en parlait tout à l'heure, je bouge pas mal en France, je joue dans des comédie clubs à droite à gauche, donc j'essaie de me développer là-dessus, quoi.
Un train de vie qui te convient, c'était le rêve que tu portais, l'ambition que tu avais au tout départ, ou alors vraiment t'avais aucun plan de carrière, encore une fois. Et est-ce que maintenant t'as quelque chose qui se dessine plus précisément?
Ouais, carrément. Là, je suis exactement dans ce que j'imaginais il y a 3, 4, 5 ans.
Ou rêver peut-être.
Rêver, exactement, ouais, de me déplacer, prendre le train pour aller jouer dans un comédie club à Paris, dans un comédie club à Marseille, à Bordeaux. C'est exactement ce qui est en train de se passer, de caler des dates pour mon spectacle, avec des gens qui viennent prendre des tickets pour me voir. Donc c'était vraiment un rêve, et c'est en train de se passer. Et c'est encore que le début, ça j'en ai conscience. Et petit à petit, on avance, et ça va bien se passer, j'espère.
T'as un autre rêve ultime là pour le coup qui se formalise?
Plein de rêves à avoir.
L'Arena, Paris-Bercy.
Je sais pas. L'Olympia peut-être.
L'Olympia
déjà,
oui.
Mais ça c'est dans longtemps. L'Olympia, à Angers, le rêve ce serait de jouer mon spectacle au Centre des Congrès. Un jour, si j'arrive à faire ça, ce serait super. Et après, ouais, avoir un spectacle avec lequel je m'amuse à fond, qui touche les gens. Et si ça peut remplir des salles déjà de 300-400 places, je serais déjà super content. Et si on peut aller plus loin, on ira plus loin, quoi.
Déjà, le 25 mars, c'est ça, à la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, c'est salle ça, ouais. Camille Lepage. On aura l'occasion, puisqu'on est aussi partenaire avec la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, dans Topette, de reparler, je pense, de ta date là-bas, dans les Hauts-de-Saint-Aubin. Donc voilà. Merci beaucoup.
Plaisir. Merci.
J'allais appuyer sur les applaudissements, mais les applaudissements, on va les entendre, surtout pendant le Angers Comedy Festival. Et comme promis, Benjamin, alors peut-être pas toute la programmation comme tu l'as fait tout à l'heure, mais les dates libres, ou en tout cas les informations pour faire son menu.
complètement. Du 12 au 15 février, du coup, 2026, là, dans deux semaines. Deux dates au Grand Théâtre, le jeudi et vendredi 13, et il reste quelques places. Samedi au Palace, c'est quasiment tout complet, à part le Bagarre Comédie avec Lou Trotignon et le Grand le Cinéma Pâté, du coup, le 14 février au soir. Et il reste des places pour le dimanche 15 février au Centre des Congrès, 33e Maurice fois 3 minutes. À 16h, c'est quasiment complet, mais à 20h, il reste des places, donc voilà, n'hésitez pas. Et toutes les infos sur angerscomedyclub.com.
C'est ce que t'allais dire, Nathan ?
J'allais dire ça, exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver les infos ? Il l'a dit. Super.
Il est trop fort.
Ouais,
il apprend vite hein, son nouveau métier, finalement. Et toi, Benjamin, alors, une ambition pareille. Maintenant que ça s'est fait, est-ce que déjà tous les objectifs ou tous les rêves qu'on pouvait avoir sur ce lieu sont en train de se remplir ? Est-ce qu'il y en a encore à remplir ? Et quelle pourrait être la prochaine étape ?
T'aurais pas dû poser cette question.
Sur le palace.
Parce qu'il va le faire en plus.
Il va dire sur la lune, on va y aller, ça va être sûr.
Non, on rachète le Grand Théâtre, je sais pas.
Non, sur le palace, c'est assez fou. Tout fonctionne très très bien. Donc après, c'est continuer et permettre à des humoristes de progresser. Pour le Angers Comedy Festival, j'ai l'ambition de construire ça aussi gros que Premier Plan ou des choses très bien installées sur la ville d'Angers. Donc c'est ça. J'ai plein d'idées de comment construire les choses. Et ouais, c'est avoir un événement de type national, quoi, ouais, d'envergure nationale, quoi, vraiment.
Tu veux dire, par exemple, alors, il y avait une actualité un peu bizarre à propos, mais je pense au Festival d'Angoulême, le Festival de Cannes, le Festival Premier Plan Angers, des Deauville aussi, il y a des choses à Deauville, des choses qui me viennent spontanément, moi, en tête, alors que je suis pas forcément branché sur ces domaines. On se dira, tiens, si je pense stand-up, festival Angers, Benjamin.
Festival de Montreux, enfin, dans l'équivalent en France, c'est le festival de Montreux qui depuis 35 ans font
France-Suisse. Non, c'est la Suisse.
Qui sont en Suisse, complètement. Suisse, ouais. Qui sont plus centrés sur le côté captation vidéo et émission, etc. Et nous, c'est d'avoir un équivalent, mais plutôt côté spectacle et vraiment à fond, voilà.
Bah, c'est juste une question de temps, je pense. Hein. D'ici 4-5 ans, peut-être, on reviendra. Pour parler de ça, on sera...
L'ambition.
Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin et Nathan, d'être passé dans Topette ce soir. Nathan, tu voulais rajouter une ultime chose?
Non, juste merci beaucoup.
Merci à vous, surtout de vous être très occupé et de prendre le temps encore de venir ici.
Avec plaisir.
Merci, Sidonie. Voilà, je pense que tu as déjà réservé tes billets sur certaines dates, peut-être.
Ça y est, c'est fait. Surtout pour le Cinéma Pâté, ça a l'air assez rigolo. Du coup, je vais envoyer une copine pour y aller.
Et le 25 mars aussi, le 25 mars.
Nathan Midou,
tu sais, le stand-upper que tu suis sur TikTok.
Oui, c'est vrai.
Eh oui, c'est vrai. Bon, prenez soin de vous, on se retrouve demain à 18h10. Topette.
Topette. Tiens, tiens, on dirait bien que notre tonton nous arrive aujourd'hui avec des poches sous les yeux.
Et c'est finement observé. Il faut reconnaître qu'il y avait un sacré moment que je n'étais pas venu à ce micro pour vous suggérer quelques lectures. Et comme l'ambiance générale n'est pas beaucoup plus rigolote en 2026 que l'année dernière, j'ai pensé qu'un peu de détente nous ferait le plus grand bien.
Tu es donc venu avec un nouveau recueil d'histoires belges ?
Exactement, Sidonie. Même si l'auteur dont je vais parler est effectivement un compatriote de Jacques Brel et des frères Dardenne, gens ô combien talentueux, mais qui ne passent pas pour autant pour être ou avoir été des amuseurs publics. L'auteur que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle Alain Berenboom. C'est un jeune homme quasi octogénaire qui a eu un parcours ne manquant pas d'intérêt puisqu'il a été avocat et secrétaire général de la Ligue belge des droits de l'homme. Et d'ailleurs, cette phase de son CV lui a indéniablement servi dans l'écriture de son premier roman, La position du missionnaire roux, dont je vais vous dire quelques mots. C'est un roman qui, comme son auteur, n'est pas un perdreau de l'année puisqu'il est paru au siècle dernier, en 1990, très exactement.
En même temps, tu nous proposes des livres de poche, pas les dernières nouveautés.
Merci de le rappeler, Sidonie. Oui, je reste fidèle aux bouquins que l'on peut dénicher à pas cher. Je pense avant tout aux boulimiques de la lecture, aux gros appétits mais dotés d'un petit budget. Mais revenons spécifiquement au choix du jour. Déjà, le titre ne manque pas d'intriguer. Il faut voir le mot « position » comme un synonyme d'attitude et pas comme la variante de base du jeu de la bête à deux dos.
Et le missionnaire dans cette histoire ?
Bonne question. Il y a vraiment un missionnaire qui n'est autre que l'adversaire du narrateur. On peut même affirmer que ledit narrateur voue une rancœur tenace à ce rouquin de missionnaire pour la simple et bonne raison que le clergyman en question a séduit son épouse. Et les deux tourtereaux sont partis roucouler en Afrique, abandonnant le mari délaissé à ses chères études. Détail important, le narrateur est le cadre responsable chez Nestlé du département lait en poudre pour l'Afrique. Et bien évidemment, non seulement le missionnaire familièrement surnommé Jim Petsek par son rival a ensorcelé grâce à son charisme la charmante moitié du narrateur, mais en plus, ce bon chrétien ne ménage pas ses efforts pour torpiller le travail du narrateur. Activiste en chef dans une ONG, Jim Petsek multiplie les campagnes de dénigrement à l'encontre de la multinationale Nestlé. Et si les méthodes déployées par Nestlé pour vendre son lait en poudre à des gens qui auraient très bien pu s'en passer n'a rien d'élégant, ce que met en place le missionnaire n'est guère plus vertueux. On apprendra ainsi qu'une combine fiscale a été mise en place au profit des donateurs apportant leur obol à la souffrance humaine et que la fameuse souffrance humaine ne récolte que des clopinettes. Pour faire court, ce qui sort d'une poche occidentale y revient sans trop tarder. C'est un peu ce qui se passe avec les rétro-commissions souvent évoquées dans le financement occulte de partis politiques. En résumé, la misère humaine est un marché comme un autre dans un monde où l'on rencontre davantage de soif du profit que de compassion pour les déshydratés.
Si tu nous parlais un peu du protagoniste, du personnage principal de cette histoire.
J'y viens. Autant te dire que nous sommes loin du héros irréprochable genre chevalier de la table ronde. On est plutôt face à une caricature de Suisse. Obsédé par la propreté, certes, mais bien moins scrupuleux quant à l'odeur, parfois pestilentielle, que peut dégager une coquette somme d'argent. Le secret bancaire qui a fait la renommée de la Confédération helvétique se dilue en quelque sorte jusque dans l'ADN de l'homme d'affaires de Genève. C'est en tout cas ce que nous dit Alain Berenboom à travers son héros, que l'on peine à trouver sympathique tant il accumule les défauts racistes, hypocrites, cupides et j'en passe. Un détail parmi d'autres, le roman est écrit à la première personne. C'est donc le narrateur qui raconte ce qui lui arrive vu de sa fenêtre. Au passage, cela permet à Berenboom de ne pas nommer son personnage. Cette pirouette littéraire qui autorise l'anonymat amène le lecteur à extrapoler quant au comportement basique de l'homme d'affaires helvète. Et le portrait n'est guère reluisant. Pourtant, au fil des pages, ce cocu déplaisant et globalement dépourvu de la plus élémentaire éthique va parvenir à attirer ponctuellement notre empathie. En grande partie parce que Alain Berenboom manie un humour dévastateur comme l'on se sert d'une machette pour avancer dans la jungle. Il se ferait son chemin de cette manière, le gars Berenboom, et il a repassé le virus à son héros anonyme pour le plus grand bonheur des zygomatiques du lecteur. C'est féroce, lucide et tellement juste. Il paraît évident que Berenboom a lu Voltaire et qu'il en a retenu le sens de la formule, ce qui lui permettra de lapider de ses phrases cruelles le fonctionnement d'une multinationale du type Nestlé. Il faudra tout de même un événement hors du commun pour amener le narrateur à se révéler, à aller chercher en lui des ressources qu'il ne soupçonnait pas.
Et cet événement hors du commun, qu'est-ce que c'est ?
Un détournement d'avion avec prise d'otage pour faire bon poids, cher ami. Pas exactement le genre de situation qui prête à la gaudriole. Et pourtant, car l'auras-tu deviné, Sidonie, notre narrateur raciste et haïssant viscéralement l'Afrique parce que sa Céline d'épouse y a fui avec son missionnaire, va bien devoir évoluer. Tout simplement parce qu'il va devoir faire alliance avec son voisin de siège, un grand noir énigmatique et écossais. Si, si, je te jure que chez Alain Berenboom, c'est parfaitement possible. Mieux encore, qui va-t-il voir arriver dans l'avion immobilisé sur un tarmac ghanéen, notre narrateur ? Eh bien oui, son ennemi juré, le missionnaire qui va se servir de cette prise d'otage comme d'une aubaine pour asseoir sa popularité médiatique. du grand art. Évidemment, tout ne se passera pas comme chacun l'aura prévu, du narrateur au pirate de l'air, en passant bien sûr par le missionnaire. En tout cas, l'attente quant à l'issue des négociations, ajoutée à quelques digressions bien senties évoquant le passé du narrateur et le rôle délétère des médias, seront l'opportunité de passer d'excellents moments avec ce bouquin. Allez, bonne lecture.
Je me souviens, je regardais Marquez dribbler sur la piste en 2010. Les tasses qui m'invitaient à fumer un spliff. J'ai passé l'âge de sauver des bébés tricks, de sauver.